un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire qui se passe en 2015 et qui n'est pas sans lien avec celle qui s'est produite récemment à Saint-Brevin, en Loire-Atlantique, où le maire de cette petite commune a été poussé, comme vous savez, à la démission à la suite d'intimidations d'extrême droite. Ici, nous sommes à Arry, en Moselle. Des intimidations, il y en a eu aussi, mais la suite ne s'est pas déroulée de la même façon. Le 27 octobre 2015, les 51 réfugiés soudanais venus de Calais sont bien accueillis à Arry, 540 habitants en Moselle. 8 ans plus tard, Arthur Minello, qui n'est plus maire de Arry d'ailleurs, déclare qu'à la place du maire de Saint-Brevin, lui aussi aurait démissionné, que les pressions n'étaient pas aussi fortes et qu'il n'a pas été physiquement menacé, lui. Il ajoute qu'il y a toujours un coin d'humanité à avoir, mais que dans ce contexte, cela lui semblait plus difficile. Les maires sont bien seuls, conclut-il. Tout de suite donc, les prémices, la version soft de Saint-Brevin, mais bien en germe. Arry, un village français à l'épreuve, où l'on entend les peurs archaïques, les portes qui s'ouvrent, les récupérations politiques et le passé qui ressurgit. Un reportage de Rémi Dibowski-Douatte, intitulé « Arry dans tous ses états ».
D'après certaines personnes, partout où il y a des immigrés, il va y avoir des vols, des viols, des incivilités, bon, tout ce qu'on veut. Et quand je me suis un peu offusquée, on m'a dit « Ah, mais vous ne lisez pas la presse ». Le mot « invasion » a été utilisé, même entre autres par des gens qui étaient avec le Front National, etc. Donc c'est une façon de nous envahir petit à petit. J'ai entendu un des habitants du village disant « Je viens de construire, ma maison ne vaut plus rien ». Ils le croyaient réellement. En plus, oui, ils avaient soi-disant entendu dire que ceux qu'on retirait de la jungle de Calais, c'était les plus féroces, les plus méchants, voilà, et qu'on les mettait exprès dans des petits villages tranquilles pour qu'ils fichent la paix à Calais. Ça a été dit pendant la fameuse réunion.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Metz. Metz, 3 minutes d'arrêt.
La réunion dont parle cette habitante s'est déroulée à Arry, en Moselle. C'est une petite commune de 540 habitants à 20 km au sud de Metz. Tout s'est passé très vite. Le 23 octobre, Arthur Minello, le maire de la commune, apprend que 51 Soudanais vont bientôt arriver de Calais. Ils vont arriver dans le village. Le gouvernement a lancé une action de désengorgement de la jungle de Calais, où survivent 4500 migrants et réfugiés. 300 d'entre eux, tous volontaires, ont été répartis dans toute la France pour passer un hiver au chaud. À Arry, c'est un centre aéré privé et vide jusqu'au printemps qui a été choisi pour devenir, selon la jolie formule utilisée par la préfecture, un centre de répit. Dans le village, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. 3 jours plus tard, le maire organise une réunion publique pour désamorcer les inquiétudes des villageois. Et le 27 octobre, vers 17h, un bus en provenance de Calais dépose ses 51 passagers devant le centre aéré, sous les yeux de la presque totalité du village réunie pour l'occasion.
C'est parti, voilà.
Voilà.
On va y aller.
En arrivant, je me dirige d'abord vers la mairie. La porte est grande ouverte. Arthur Minello, le maire, agriculteur à la retraite, m'accueille avec un grand sourire.
Le 17 octobre sont arrivés les 51 migrants de Calais. Donc ça nous a été informé la semaine précédente, le vendredi précédent, par le préfet. On nous a mis devant le fait accompli. Et en plus, c'est un centre privé. Donc la commune n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc on a été, contraint à accepter cette arrivée des migrants. Le préfet nous a bien expliqué que pour lui, ce centre aéré de Moselle, c'était le seul centre qui était immédiatement disponible au niveau des locaux, au niveau des espaces, etc. Bon, ben, c'est très bien, ils sont arrivés. Alors c'est des Soudanais, dans le secteur de Carrefour, là. Darfour. Et donc, ce sont des jeunes, en principe célibataires, de 20 à 30 ans. Et ils sont là pour la période d'hiver, jusqu'au 31 mars. On est donc devant le centre aéré. Donc, ils sont dans un centre qui est vraiment tranquille. Il y a 4 hectares de parc. Donc, mieux que ça, pour l'instant, je ne connais pas. Hein. Voilà.
Dites, ce toit, je le reconnais, je l'ai vu en photo.
Oui.
Il y a des jeunes qui sont montés avec une banderole.
Tout à fait. Il y a des jeunes qui contestent l'avenue d'étrangers. Ils sont montés sur la toiture de ce bâtiment-là avec une banderole. On est chez nous, rentrez chez vous. Alors, bon, mais c'est des jeunes.
Cette scène que décrit le maire s'est déroulée quelques heures avant l'arrivée des migrants.
Extrémistes, quoi, hein.
Et ce groupe dont il parle, c'est Génération Identitaire, la branche jeune du Bloc Identitaire, dont le programme politique est ainsi résumé sur le site internet. Je cite : relever la tête face à la racaille, à l'immigration massive, à l'uniformisation des peuples et des cultures. J'essaye de rencontrer ces jeunes, mais à Harry, personne ne les a jamais rencontrés. J'arrive enfin à joindre Jordan Loer, un de ces jeunes. Comme les autres, il n'a rien à voir avec Harry et il vit à 150 km de là. Nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections régionales. Donc ici, dans la région Grand Est, qui regroupe l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, l'extrême droite est en campagne. Florian Philippot, du FN, est au coude à coude avec la droite. 3 jours après l'arrivée des migrants, le candidat frontiste s'est invité à Harry pour dénoncer, je cite, « la folie de l'accueil des migrants, exiger la tenue d'un référendum auprès des habitants et annoncer que, quand il serait élu à la région, il supprimerait toute subvention aux migrants. » En réalité, la région n'a aucun pouvoir en la matière, c'est pas une compétence régionale. Mais je veux quand même comprendre si la défiance vis-à-vis des migrants est réellement ce qui l'emporte dans ce petit village de Harry. Vous avez eu peur, vous, quand vous avez appris ça ?
Non, c'est pas de la peur, c'est une inquiétude. Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous tombe dessus ? Est-ce qu'on aura des problèmes ? Parce que certains disent, oui, ils vont voler nos poules, ils vont s'occuper de nos femmes, ils vont... voilà, toutes les bêtises qu'on peut entendre. Hein. Alors c'est sûr, ils viennent d'un monde qui est complètement différent, hein. Certains même viennent, si j'ai bien compris, de certains villages où c'est de la terre battue. Hein, ils font des petits boulots, je dirais, qui n'ont rien à voir avec ce qui existe ici. Hein. Donc eux, c'est un monde nouveau. C'est un monde nouveau qu'ils rencontrent, d'après ce que j'ai compris. Hein. Ok. Bon,
Le téléphone du maire sonne encore, il doit partir cette fois. Je le trouve particulièrement digne compte tenu de la situation imprévue qu'affronte le village. Je pars donc à la rencontre des habitants, ce qui n'est pas vraiment facile dans ce village sans commerce ni école. Je remonte la rue principale et je frappe à la première porte.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Parisien ?
Oui.
Ouais, bonjour, je suis journaliste, je fais un reportage sur les migrants.
Oui. Vous aviez peur au début ?
Ah, et comme tout le monde, hein, des craintes. Hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est des jeunes, c'est des vieux, ils parlent français. Au début, c'était ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils allaient faire à Harry ? Sur tout ça. Parce que sur Harry, il n'y a rien. Rien. Donc nous, les craintes, c'était aussi de les avoir tous les jours à la porte. Parce que on a eu des jeunes qui sont passés. Ils ont dit sur Metz, il y a quelques migrants. Et qu'ils étaient sollicités tous les jours par les migrants pour une pièce, pour un vêtement, pour quelque chose, pour à manger. Alors, on a craint ça ici aussi. Avec les gens de la préfecture qui sont venus, qui sont un petit peu... qui nous ont expliqué que des migrants, mais il y en avait toutes les semaines, qui arrivaient en Moselle. 50 de plus, 50 de moins, pour eux, c'était normal. Ils nous ont bien expliqué qu'ils seraient maintenus le soir par un service de surveillance, de gardiennage, qu'ils allaient apprendre le français, qu'ils allaient demander leurs papiers pour être régularisés, et que sitôt qu'ils avaient leurs papiers, ils partiraient. Mais bon, que d'autres reviendraient remplacer. On vous met 50 migrants à Harry et débrouillez. En gros, au début, c'était ça. Vous les aurez sur le dos, puis vous verrez bien. Hein. Bon, après, les craintes aussi, tiens, ce qu'il y avait, c'était les maladies, tiens. C'est vrai, ils sont tous malades à Calais, ils vont nous ramener les maladies, on va rendre tout le village la gale et tous ces trucs-là. Bon, bah. Après, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est toujours question argent, parce que, en gros, c'est nous qui payons. Voilà, donc, j'estime chez nous, en France, qu'il y a assez de personnes qui sont dans le besoin et on n'en fait pas autant. Alors, quand on nous dit qu'il y en a 6000 à Calais, et qu'on va mettre 50 à Harry sur 500 habitants, 10% de la population, on voyait une marée noire arriver, hein.
C'est vraiment la peur de l'inconnu. On ne sait pas, on ne les connaît pas. Moi, quand j'ai entendu qu'ils allaient arriver, j'ai regardé un peu, je me suis documentée, j'ai essayé de regarder un peu sur Internet. Quand j'ai vu ce qui se passait sur Calais, au moment où ils sont arrivés, bon, il y a de quoi avoir peur des violences, puisque c'est quand même des hommes qui ont entre 25 et 35 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos habitations. Ici, on est dans un village tranquille. Si on est venu dans un village, c'est pour être tranquille. Et puis, pas avoir vivre dans la frayeur tous les jours. Et puis, ce changement, tout de suite, le changement dans un petit village comme ça, voilà, les gens ne sont pas habitués au changement. Et ils n'aiment pas le changement. Moi, je sais que personnellement, je n'aime pas qu'on m'impose du changement. S'il y a du changement, c'est moi qui le décide. Et puis, après, ben, on s'adapte. Hein, et voilà.
Et ici, vous avez eu la visite de Florian Philippot, alors qu'il est venu tracter ?
Oui. Ça a été un flop apparemment. Et bon, il est arrivé en pleine semaine, hein, comme vous aujourd'hui, où les gens travaillent. Et je pense que de toute façon, sa venue, ça n'a pas plus fait de bruit que ça. On en a entendu parler comme ça, mais ça n'a pas été non plus un succès. De toute façon, ils étaient là, c'était trop tard. C'était. Voilà. D'après ce que j'ai entendu, la France va en accueillir, du moins compte en accueillir d'ici 2017 30 000. Donc il y a un moment, voilà, on ne peut pas réagir comme ça. De nos jours, on ne peut plus réagir comme ça.
Mais on dirait que finalement, vous avez évolué pendant ces 3 semaines.
Ah oui, parce qu'en faisant connaissance, en dialoguant, ben on se rend compte que finalement on s'est monté le bourrichon pour rien, quoi. Puis de toute façon, c'est pas en restant cloîtré chez soi et qu'on peut essayer de les découvrir et qu'ils nous découvrent aussi, quoi.
Vous y avez été vous-même ?
Oui, j'y suis allée hier pour la première fois avec mes enfants. J'y suis allée.
Comment ça s'est passé ?
En fait, j'ai rejoint mon fils qui joue au foot avec eux. Et donc, quand je suis arrivée près d'eux, ils étaient il y avait des petits groupes. Il y en a qui jouaient au foot et il y avait quelques petits groupes sur les côtés. Je suis arrivée, ils m'ont dit bonjour, je leur ai dit bonjour. Très accueillant, très gentil. Bon, après, ils ne parlent pas français, donc ce n'est pas évident. Ils parlent anglais, je ne parle pas trop anglais. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'ils essayent aussi, ils ont envie de parler notre langue un maximum pour pouvoir communiquer avec tout le monde, quoi.
Alors les enfants, ils sont contents qu'il y ait les réfugiés qui soient là pour jouer au foot ?
Ah bah écoutez, oui, et eux, ça leur change la vie, puisque maintenant, les réfugiés, hier, quand ils jouaient, ils devaient être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Et bon, après, ils impliquaient bien les enfants, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu... Non, et puis ils sont contents, parce qu'ils ont au moins du monde pour jouer au foot, quoi, ils ont des copains. En plus, ils jouent très bien au foot. Et ça forme un peu nos enfants aussi. Ça leur permet à eux de se dépenser et à nos enfants de se dépenser. Après l'école ou... Bon, le seul souci, c'est dans un village comme chez nous, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. Donc c'est pas... On se demande ce qu'ils peuvent faire la journée. Maintenant, bon, je vous dis, hein, ils jouent au foot. Hier, ils sont allés jouer au ping-pong, puisqu'on a un petit club de ping-pong. Et voilà, et c'est après la journée, ben, je ne sais pas trop, ils se promènent, le parc est grand, mais ils sortent. Hein, on a une zone commerciale à 10-12 km, donc ils sortent. Alors j'ai appris hier qu'il y avait des habitants qui s'étaient proposés de les déposer dans la zone, très sympa. Et bon, voilà, c'est... Oui, ici, il y a un bus le matin, il y a un bus le soir, hein, et je ne sais même pas s'ils s'arrêtent dans la zone. Voilà, c'est bien, tant mieux. Ça se passe pour l'instant très très bien. Il n'y a pas de souci. Ils commencent à parler français. Donc c'est Annie Boulanger qui leur apprend beaucoup à parler français. Elle leur donne des cours. Et du coup, ben, voilà, ils s'intègrent. Ils essayent de s'intégrer un maximum.
Je repars en direction du centre aéré à la recherche d'Annie Boulanger, cette habitante qui a entrepris d'apprendre les bases du français aux Soudanais. Sur le chemin, je croise une éducatrice du centre. Je lui demande combien de Soudanais ici parlent déjà le français.
Alors, combien qui parlent français? C'est compliqué. Ils sont quelques-uns, moins d'une dizaine à parler le français. Par contre, les premiers cours ont commencé hier après-midi, donc avec Madame Boulanger, et elle a un succès fou. La salle était pleine. Et encore ce matin, on en a trouvé deux dans la salle de cours en train de travailler l'alphabet. Bien même au-delà, on sent l'envie d'apprendre et de pouvoir communiquer avec les voisins, avec les gens du village, avec la population en général. Mais ils sont bien, enfin je veux dire, ils sont bien accueillis par la population. Tous les jours, il y a des gens qui viennent, qui disent bonjour, ça discute, ça tape le ballon à côté. C'est une réussite.
Devant le centre, une dizaine de migrants jouent au foot. Annie Boulanger, retraitée et habitante du village, est là.
Alors c'est vous qui donnez l'alphabétisation là.
Alors pour le moment, il n'y a que moi, mais nous essayons de recruter d'autres parce que bon, il y a quand même 49 personnes qui sont très 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 demandeurs et qui ont un niveau en français très faible et donc c'est vraiment beaucoup de travail. Bon, on repart à zéro. Et puis je pense que ces jeunes-là ont besoin d'être occupés. Que si on veut aussi qu'ils s'intègrent, puisqu'ils disent que c'est leur volonté, il faut leur en donner les moyens. Donc la meilleure façon, c'est de leur apprendre un petit peu à dominer la langue, la culture. Et ils sont vraiment très, très demandeurs. Hein. Là, il n'y a aucun problème. Alors, je communique un petit peu en arabe. Très peu. Mais enfin bon, ça les amuse. Ils s'amusent de mon accent. En même temps, bon, je dessine. On parle un petit peu en anglais. Ceux qui parlent un peu mieux en français nous servent de traducteurs. Finalement, on y arrive. Donc, je leur apprends à comprendre quel est ton nom, répondre, la date de naissance, dire qu'ils sont réfugiés. Bon, vraiment, ce sont des situations réelles qu'ils vivent. Hein. Et puis en même temps, bon, j'ai amené des cartes de France, des cartes d'Europe, la capitale de la France, le drapeau. Bon, si vraiment ils veulent s'intégrer en France, bon, et d'ailleurs ils sont demandeurs, faire un petit peu de culture française. Vous voyez, là, c'était le 11 novembre. Bon, bah, on a un peu expliqué. Et quand je vois le degré d'inoccupation qui est le leur, parce que personne ne propose autre chose, je trouve que c'est très bien. Hier, ils ont ramassé les feuilles, ils ont marqué le terrain de foot. Enfin bon, je veux dire, si on leur propose des activités, ils les font. Le problème, c'est que peu de personnes leur proposent des activités. Hein, là encore, tout à l'heure, dès qu'ils me voient, ils me disent « Ah, école, école !» Mais je dis, non, il n'y a pas école. Mais bon, c'est vraiment des jeunes de bonne volonté, quoi. Il n'y a pas de problème. Là, ils se prennent quand même relativement en charge. Hein. Ils font leur lessive. Bon, c'est eux qui font le self-service pour leur pas. On leur fait leur pas, mais c'est eux qui après se débrouillent. Le week-end, ils sont quasiment laissés à eux-mêmes. Bon, c'est quand même important. Hein. Ils se débrouillent bien, je trouve. Et puis bon, par rapport au village, si vous voulez, je pense qu'il est important d'essayer de faire le lien pour que certains préjugés, certaines peurs puissent disparaître.
Et quel écho ça a eu dans le village, cette venue de M. Philippot ?
Alors, aucun. Donc, les migrants sont arrivés le mardi soir. Et le jeudi matin, on a appris donc que le Front National, avec M. Philippot et tous les représentants locaux, avaient rendez-vous ici à 15h. Donc, ils sont arrivés avec des tracts qui disaient « Des centaines de migrants envahissent votre ville ». Le problème, c'est comme vous l'avez vu, c'est un village tranquille, les gens vont travailler. Et puis finalement, ben, c'était le vide. Il y avait des journalistes, bien sûr, qui avaient été tenus au courant, mais des gens du village, il n'y avait personne. Puis ben, voyant que personne ne les attendait, que personne ne les accueillait, ben, ils sont tous repartis avec leurs jolies voitures, leurs jolis tracts et tout ça. Il faut savoir qu'ici, les gens ont une expérience de réfugiés par leurs propres parents. Nous sommes le dernier village de Moselle sur la côte et ça a toujours été dans les guerres un lieu stratégique. Donc, quand les Allemands ont envahi à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont voulu vider le village pour être libres de faire tout ce qu'ils voulaient ici. Donc, ils sont arrivés un matin et ils ont donné aux gens une demi-heure pour faire, entre guillemets, leur valise. Ils ont embarqué tout le monde et hop, on les a emmenés dans le sud, sud-ouest de la France. Et pour beaucoup des personnes qui ont été emmenées, ils n'ont pas été bien accueillis. Moi, j'ai ma famille qui a été aussi réfugiée dans le sud-ouest et on disait c'est les Boches de l'ouest. Et mon cousin me racontait encore l'autre jour, ils étaient battus à l'école, en les appelant sales Boches, etc. Donc, pour certains, cette histoire, par exemple, le doyen du village disait « Mais comment peut-on refuser d'accueillir des réfugiés alors que nous, nous avons une expérience de réfugiés négative ?» Donc, au contraire, ça doit ouvrir l'esprit et ouvrir le cœur. C'était un argument qui a été utilisé par certains anciens pour dire « Il faut les accueillir ». Ce qui fait que les personnes d'ici, certains, ont pris ça en disant « Nous aussi, on connaît, nous aussi, on a été mal accueillis ». Et donc, il faut faire un effort. Donc, même s'ils ne sont pas pour, okay, au moins, ils ne vont rien faire contre. Et puis là, quand je vais dire, bon, qui veut bien me faire des gâteaux pour les fêtes et tout, ils vont donner de leur personne, sans problème. On a rediscuté quand même avec certains, en particulier avec les parents des enfants relativement jeunes, qui avaient surtout peur pour leurs enfants, je ne sais pas pourquoi. Et puis finalement, les gamins, bah, spontanément, sont venus jouer au foot. Vous avez vu, là, ils adorent jouer au foot.
Ça, on les voit rentrer.
Oui. Et les gamins viennent jouer au foot avec. Et du coup, bon, bah, je pense que les parents vont évoluer. Tout ce qui peut être fait ensemble me paraît très important. Bon, puis on va essayer aussi au moment des fêtes de faire quelque chose de sympa. D'autant qu'eux sont musulmans. Et que le 24 décembre, c'est ce qu'on appelle le Mouloud, Eid al-Maulid. Et donc, c'est la fête de la naissance du prophète. Donc le 24 décembre, le 25. Après tout, c'est la période de paix, hein, c'est ce qu'on dit. Donc faisons la paix, partageons des choses concrètement ensemble.
En arrivant à Harry, j'avais pas réalisé à quel point l'histoire du village pendant la Seconde Guerre mondiale a marqué les esprits. En 1940, quand les Allemands sont entrés dans le village, seul le curé, grand admirateur d'Adolf Hitler, est resté. La totalité des habitants a dû partir du jour au lendemain et devenir réfugiés.
Bonjour monsieur.
Salut.
Gabriel Bello, qui a 85 ans, habite juste en face du centre aéré.
Bougez pas.
Il se souvient de tout.
En 1940, quand les Allemands sont arrivés, ils ont réuni les chefs de famille, les hommes, à la mairie, en disant que... il fallait qu'on choisisse aller en France ou en Allemagne, parce qu'on pouvait pas rester ici. Alors, le choix, c'était la France. On était trop francophiles. Nous les jeunes, on était gamins, moi j'avais 10 ans, on était contents d'aller en France, parce que c'était la France ou l'Allemagne. Hein. Et puis, ils sont venus, hein, je sais, donc le 13 novembre, au matin, on les voit arriver dans les maisons, quoi. Allez, raus. Ils nous ont fait monter dans les wagons, et puis d'un coup, le train partait. Et on est arrivé à Mauvezin, tous les gens d'Harry. Mais à Mauvezin, on a été accueillis comme ça. Oh, Mauvezin, moi je dis chapeau, hein.
Mais alors, quand vous vous penchez à la fenêtre, vous voyez des réfugiés d'Afrique.
Ah oui, moi je dis qu'ils ont bien fait de les accueillir, hein, parce qu'on a connu ce que c'était, nous. Alors, moi je dis chapeau de pouvoir les aider, quoi. Pour moi, c'est des réfugiés. J'étais dans le jardin là, l'autre fois, là, quand ils, ben, le lendemain ou le lendemain qu'ils étaient là. Puis il y en a trois qui sont passés là, ils étaient se promener jusqu'au bout du village. Puis, ils m'ont fait bonjour, il y en a un qui m'a parlé en français. Mais bonjour, ça va monsieur? Je dis oui, vous profitez du soleil? Il faisait beau le jour-là. Et puis il y en a un qui est venu auprès de moi, m'a serré la main. C'est tout, quoi. Mais on voit qu'ils sont contents d'être accueillis.
Listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I
I never wanted water once. No, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never.
C'était Harry dans tous ses états, un reportage de Rémi Dibowski, doit être réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en novembre 2015. Sachez que depuis, le maire nous précise qu'à l'époque, les migrants sont donc restés 3 mois. Ils ont été ensuite relogés à Metz dans une structure plus adaptée, que depuis, il n'a pas eu de nouvelles d'eux, mais que, en gros, comme vous l'avez entendu, tout s'est bien passé. Et voilà, merci à lui ainsi qu'à tous les habitants d'Harry. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.
But never, 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 I never wanted water once. No, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same.